J'allais dire tout d'abord que, comme j'ai dit hier, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Surtout parce que je trouve que ce que vous faites ici, en tant que le GBU en France, en tant que les chrétiens en France, je trouve très important. Être un chrétien dans un monde sans beaucoup de chrétiens, merci Philippe, ça c'est, pour moi ça c'est d'être un vrai missionnaire. Moi je suis missionnaire en tant que mon titre, mais vous êtes des vrais missionnaires, et c'est une tâche difficile, mais c'est très important. Moi je n'ai pas vécu ce type d'expérience quand j'étais à la fac. Ce n'est pas que je n'étais pas chrétien, mais en fait j'étais un chrétien parmi beaucoup beaucoup d'autres chrétiens. Et parce que j'étais à un institut biblique à Chicago, et là j'ai trouvé que j'étais dans une minorité assez différente que la minorité que vous êtes. Parce que moi, mon problème était que je n'aimais pas du tout les règles de l'institut. On avait beaucoup. Et donc moi, j'étais toujours un de ceux qui avaient les cheveux un peu trop longs, et j'ai essayé de cacher mon bouc d'oreille derrière ces cheveux qui étaient un peu trop longs. En fait, la règle qui m'embêtait le plus, c'était le couvre-feu. Parce que jusqu'à 20 ans, on était obligé de rentrer dans le dortoir avant minuit. Et donc, la première fois que je suis sorti avec la fille, qui est maintenant ma femme, on est rentré un peu trop tard. Pour éviter les conséquences, on n'avait pas de choix. Donc, on s'est baladé au bord du lac jusqu'à 6 heures du matin pour ne pas rentrer après l'heure. Et c'était notre première sortie, donc on n'a fait que de se balader, je vous assure, pendant 6 heures ou plus.
Et bon oeil, bon oeil.
Mais bon, je vous dis tout cela juste vraiment pour dire simplement que vous, contrairement à moi, qui était peut-être une lumière, mais une lumière parmi beaucoup d'autres et un peu affaiblie, je dirais. Vous avez l'occasion d'être des vraies lumières dans un monde qui a besoin de vous. Et je vous encourage, ne ratez pas cette opportunité. Vous avez quelque chose de valeur dans votre vie, et ne le cachez pas. Et cela rejoint un autre sujet d'aujourd'hui, la perspective du Père. La perspective du Père sur la croix. Parce qu'à mon sens, c'est souvent une image mal comprise du Père qui rend certains gens mal à l'aise avec le christianisme. Et certains d'autres mal à l'aise avec l'idée de partager sa foi. Voilà plusieurs idées, en fait, sur cette croix. L'idée, d'abord, l'idée que le Père punisse le Fils est une sorte de maltraitance d'un enfant, qui est une idée assez courante en ce moment. C'était dit dans ce cas par Steve Jobs, mais il y en a d'autres qui le disent. Ou bien, c'est une dette d'honneur que doivent l'homme et l'ange à Dieu. Anselme de Canterbury. Ou bien, John Stott, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Et on ne va pas finir la citation tout de suite. On va attendre un peu. Mais voilà des perspectives qu'on peut avoir sur la croix et le rôle du Père là-dedans. La croix est-elle une sorte de maltraitance du Fils par le Père? Est-elle simplement une façon de payer une dette? Et en fin de compte, qui paie cette dette? je trouve ces questions très importantes parce que tout le monde aime Jésus, ou au moins une certaine idée de Jésus, n'est-ce pas? Jésus a parlé beaucoup de l'amour. Il était gentil et il s'est sacrifié pour son peuple. Mais le Père, là, on est moins sûr, parfois. C'est le Père qu'on voit dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ou au moins, c'est ce qu'on pense. Le Père qui est le Dieu qui a ordonné la guerre et la lapidation et qui, en fin de compte, a exigé la mort de Jésus. Même qui a maltraité son fils dans sa colère, d'après certains. Et d'après cette manière de penser, on arrive très vite à l'idée, soit consciemment, soit inconsciemment, que le Fils est venu pour nous sauver du Père. C'est une idée absolument hérétique, mais c'est une qui, je trouve, est derrière la pensée de beaucoup de chrétiens. Et elle va sûrement poser un problème pour les non-croyants. L'idée que Jésus est venu pour nous sauver du Père. Donc, comment répondre alors à ce conseil mal conçu? Comment regagner un point de vue biblique sur le Père et la croix? Évidemment, regardez la Bible. Et on va commencer avec deux principes de base. D'abord, la Bible nous dit que sur la croix, Jésus est devenu notre péché. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Principe de base, on est là. Principe de base. La Bible nous dit que, à la fois, Jésus est devenu notre péché. En fait, il est devenu nous. Il a pris notre place. En 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. » Jésus est devenu notre péché. Il a pris sur lui-même, dans lui-même. Il s'est identifié avec nous et notre péché à tel point que Paul peut dire qu'il est devenu. C'est une identification qui a commencé à son baptême. Où il s'est identifié avec son peuple d'une manière choquante. En réponse à un appel de se repentir et d'être baptisé. Lui qui n'avait aucun péché. Et ainsi il deviendra à la fois le représentant de son peuple devant Dieu. Donc aujourd'hui, nous nous demandons comment le Père avait-il vécu le péché d'Israël pendant leurs longues années de rébellion et de désobéissance, quand la nation avait abandonné son Dieu. Parce que si nous comprenons l'attitude du Père envers le péché, nous comprendrions alors ce qui se passait chez lui, pour lui, au moment de la croix. Le moment où Jésus a pris ce péché sur lui-même. En Jésus, le peuple et leur péché ont été cloués sur la croix. Que le Père ressentit-il pour son peuple et pour leur péché? Vous avez mes deux réponses à cette question dans votre programme pour aujourd'hui. Pour lui, pour le Père, c'était un moment de colère et également un moment de souffrance. Voilà le verset sur l'identification de Jésus avec notre péché. 2 Corinthiens 5, 21. C'est le prochain point. Donc, voilà les deux perspectives. La perspective de la colère du Père et la souffrance du Père. Ils sont deux sentiments qui répondent aux deux aspects de la situation, le côté négatif et le côté positif, on peut dire. Mais pourquoi parler des sentiments du Père, de sa souffrance et de sa colère, au lieu, par exemple, de sa justice et son amour? Deux idées qui correspondent également à ces deux côtés de la situation. La justice qui exige la punition et l'amour qui nous donne le pardon. Pourquoi parler des sentiments du Père? Ça va, je peux lire comme ça.
Je lui ai dit qu'il fallait parler son autre pour aujourd'hui.
Voilà. Il faut que je apprendre. C'est mieux. Bon, on peut trouver une autre. Oh là là, c'est compliqué. On va faire. Oh non, ça va.
Je pense que ça peut aller.
Ouais. Oh, si je le touche pas.
Si tu le tiens, ça marche pas. Tiens. Ouais.
Ok, je peux le tenir. Bon, avant tout cela, j'étais en train de demander, poser la question, pourquoi parler des sentiments du Père au lieu des autres aspects qui correspondent aux aspects de la situation. On peut parler de sa sainteté et sa grâce. Encore une façon de parler de ces aspects négatifs et positifs de la situation. Et c'est vrai que cela marcherait. Mais aujourd'hui, on va parler de la colère et de la souffrance de Dieu. Parce que ces deux idées nous rappellent que cet événement a touché Dieu, a touché le Père profondément. Dans sa personne, Dieu était ému par cette expérience plus profondément que nous avons tendance à imaginer. Son peuple a péché et l'a rejeté. Mais cela ne l'amène pas simplement à une réaction délibérée et désintéressée, mais à une réaction très émotionnelle vis-à-vis de son peuple. On lit donc de sa colère ardente et également de sa tristesse pour son peuple. Et on va considérer les deux tout à l'heure. Mais pour le moment, notre deuxième principe de base, c'est que Dieu est un Dieu qui ressent de vraies émotions. Et avant qu'on commence à considérer ce que cela veut dire pour nous, il faut une petite parenthèse sur les émotions de Dieu. Pour qu'on puisse éviter des erreurs hérétiques et en même temps restaurer un peu l'image biblique du Père, de Dieu et sa personnalité. Depuis Platon et Aristote, et j'espère que vous aimez un peu la philosophie, mais même sinon, c'est important à savoir que depuis la philosophie grecque, notre pensée occidentale a eu tendance à voir Dieu comme complètement sans émotion. Impassable, on dit souvent dans le domaine de théologie. Et puis, cette idée est entrée dans l'Église, dans la pensée de l'Église, malgré le fait qu'elle n'avait presque rien à voir avec ce qu'on voit dans la Bible. C'est vrai que certains sont allés trop loin pour corriger ce problème. Et donc, il faut être vraiment clair. Même avec ses émotions, le Dieu de la Bible est un Dieu qui est tout-puissant et qui ne change pas dans sa personne. Il est immuable, comme on dit en théologie. Il ne change point. Mais le point aujourd'hui, c'est que le fait qu'il ne change pas dans sa personne, de son caractère, il ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, qu'il n'a pas de réaction aux événements qui arrivent dans son monde, chez son peuple. Même des réactions émotionnelles. Et en fait, c'est parce qu'il reste le même qu'il réagit toujours. Si tu ne supportes pas manger un certain plat, par exemple, les andouillettes, disons. Ou bien le black pudding, comme on a chez mon ami ici. Si tu ne supportes pas ce type de choses, tu vas forcément commencer à te sentir malade quand l'assiette arrive devant toi. Je vous assure. Et à ce moment-là, ce n'est pas toi qui as changé, c'est la situation. Et alors, le fait que Dieu ait des émotions et ainsi des réactions émotionnelles à ce qui se passe chez son peuple ne veut pas dire qu'il change dans sa personne, ce qui est une hérésie très courante et dangereuse à mon sens. Et d'ailleurs, que Dieu réagisse à ce qui se passe chez son peuple ne veut pas dire non plus qu'il ne soit pas omniscient, qu'il ne savait pas d'avance ce qui se passerait. Si tu me dis quand j'arrive chez toi qu'on va manger des andouillettes ce soir, ça n'empêche pas du tout ma réaction quand le plat arrive devant moi, même si je savais des heures en avance. Donc voilà pour la parenthèse. À ce qu'on voit dans les Écritures, Dieu est un Dieu qui a des émotions. Il ne change pas. Il est tout puissant. Et il sait tout. Mais il n'est pas sans émotions. Il a des sentiments forts pour son peuple. N'oublions pas cela. Quand on parle de la croix, n'oublions pas que Dieu, en tant que Père, a des émotions fortes pour son peuple. Oh, ça c'est un peu trop tôt. Bon, tu vois, il y a un fort contraste entre ces deux images-là. Je l'ai fait exprès, mais... Bon, commençons avec ce qu'on appellera, faute de mieux, le côté négatif de ces émotions de Dieu. La colère de Dieu. Un Dieu saint ne peut qu'être en colère face au péché. Il ne peut pas supporter. Un peu comme moi et les andouillettes. C'est une réaction plus ou moins automatique. Mais comme beaucoup de gens, vous êtes probablement beaucoup plus à l'aise si je dis que Dieu réagit au péché à cause de sa justice ou de sa sainteté, plutôt de parler de sa colère. N'est-ce pas? Parce que la colère, en tant qu'émotion que nous ressentions en tant que des êtres humains, c'est une émotion que nous avons souvent du mal à contrôler, qui nous maîtrise, ou venant des autres, qui nous blesse injustement. La justice, par contre, au moins dans la pensée occidentale, c'est un processus objectif. L'idéal pour nous, même si on n'atteint pas souvent, l'idéal est un système de justice dans lequel les questions d'émotion et de sentiment n'entrent pas. Et la loi se construit justement pour empêcher que la colère d'un juge et une influence sur ses décisions. Mais la Bible nous dit au contraire que le péché du peuple de Dieu, le rejet de sa justice et de son amour, il met Dieu en colère. Et de plus que Dieu agit selon sa colère. Il est donc absolument nécessaire que nous essayions de comprendre ce que cela veut dire pour nous. Donc lisons ensemble Ézéchiel chapitre 5, versets 9 à 13. Ézéchiel chapitre 5. Et on verra si... Bon, on va laisser ma fille là pour le moment, mais regardez Ézéchiel chapitre 5. On va commencer à verset 9. Dieu dit à Israël: à cause de toutes vos abominations, j'agirai contre vous comme je ne l'ai jamais fait et comme je ne le ferai plus jamais. Ainsi, au milieu de vous, des pères dévoreront leurs propres fils et des fils mangeront leurs pères. J'exécuterai mon jugement contre vous et je disperserai à tout vent ce qui restera de vous. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, puisque vous avez souillé mon sanctuaire par toutes vos idoles, répugnantes et abominables, je passerai le rasoir sur vous, sans un regard de pitié, et j'agirai sans ménagement. Un tiers des habitants de la ville mourra de la peste ou périra de faim dans vos murs, un autre tiers tombera frappé par l'épée aux alentours de la ville, et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent, et je le poursuivrai avec l'épée. Je donnerai libre cours à ma colère, et je ne ferai peser mon courroux sur eux. Je leur ferai payer leur trahison, et quand j'aurai donné libre cours à ma colère, ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai parlé, parce que je ne transige pas avec leur infidélité. C'est un texte assez lourd, à mon sens. Mais selon ce qu'on voit ici, pourquoi le péché met Dieu, met-il en colère? D'abord, si on cherche ces versets, on voit que la désobéissance d'Israël était une attaque personnelle contre Dieu. Ce qu'ils faisaient était une abomination devant lui. Ils adoraient des idoles répugnantes à lui. C'était une trahison. Ah, on peut pas. Je vois que ma fille cache tout et, le texte. À cause d'une attaque, le point là, c'est à cause d'une attaque personnelle.
Je peux corriger?
Non, merci, ça. Si, en fait, si tu veux, tu peux. Vas-y. C'est bien d'avoir un maître stage avec. Le fait que Dieu est bon au fond de son caractère et non pas dans une manière superficielle. Tout péché est une trahison contre son caractère. S'il pouvait voir le mal, le péché et l'ignorer, cela voudrait dire qu'il n'était pas pure bonté. Tu peux le cacher peut-être pendant que tu le penses. Le mal et la bonté dans ce sens, c'est un peu comme le matière et l'antimatière. Est-ce qu'il y a des scientifiques dans la salle qui sait... Bon, en tout cas, la matière et l'antimatière, c'est deux choses, quand ils se rencontrent, ils se détruisent mutuellement, si j'ai bien compris la science. Et si Dieu ne réagisse pas contre le mal, cela voudrait dire qu'il n'était pas en fait tout à fait bon. Un peu comme la rencontre entre la matière et l'antimatière. Mais ce qui est de plus, c'est que puisque Dieu est une personne et non pas le matière inanimé, cette réaction est personnelle. La loi survient de son caractère personnel. Le mal, le péché, c'est donc une attaque personnelle contre la personne de Dieu lui-même. Chez moi, aux États-Unis, on entend souvent une illustration de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. C'est l'histoire d'un juge dans sa salle d'audience. Un criminel apparaît devant lui, un criminel qui a déjà été trouvé coupable. Il a avoué en fait, et il plaide pour la grâce. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire, peut-être. Et le criminel est condamné à la mort. Mais le juge est un homme de compassion. Et il voudrait pardonner ce criminel qui a repenti. Mais la loi le contraint. Il doit exiger la pénalité. Et en fin de compte, pour sauver cet homme, le juge donne son propre fils pour qu'il meure à la place du criminel. La loi contraint ce juge, mais il peut agir avec grâce aussi. Cette illustration, comme toute illustration, elle éclaircit certaines choses, mais elle en obscurcit d'autres. C'est vrai qu'il y a un aspect juridique dans le péché et sa pénalité. Dieu nous a donné sa loi et on y a désobéi. Il y avait alors une pénalité inévitable. Et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui l'a payé à notre place. Mais l'un des problèmes avec cette illustration, c'est qu'elle donne l'image d'un juge pour qui la loi existe en dehors de lui-même, comme un juge humain, pour qui le crime n'est pas personnel. Pour nous, dans un procès juridique, on veut un juge objectif qui sert et qui interprète la loi de l'État. Il est lui-même sous la loi. C'est tout à fait nécessaire si le juge est humain. Mais Dieu est Dieu. Il est bon et la loi qu'il donne n'est pas une loi qui vient d'en dehors de lui-même, de l'État ou de l'univers. C'est une manifestation de sa propre caractère. S'il dit dans la loi, aimez les uns les autres, c'est parce que lui-même, il est l'amour. S'il dit, ne mentez pas, c'est parce que lui, il est la vérité. S'il dit, ne tuez pas, c'est parce que lui, il est la vie. Alors, si la loi le contraint dans un sens, c'est parce qu'il s'agit de sa propre caractère, de sa propre nature. S'il ignorait la loi, il ne serait plus lui-même. Et la rébellion de son peuple est donc une attaque personnelle contre sa personne. C'est une offense personnelle. Son peuple n'a pas voulu vivre en conformité avec son caractère. C'est plus qu'une transgression d'une loi impersonnelle, c'est le rejet de sa personne, de Dieu lui-même. Reviendrons alors à notre illustration, notre image d'un juge dans sa salle d'audience. Comment corriger cette image? Comment vous corriger cette image? D'abord, il faudrait imaginer, il faut changer le contexte d'un cours de loi à une réunion de famille. Une réunion de famille assez sombre, je dirais, mais une réunion de famille. Et la loi en question ne serait pas un système juridique, mais l'ordre d'une famille, avec toutes les relations et tout l'amour que ça implique. Et d'ailleurs, le criminel n'est pas inconnu au juge. Il est son propre fils, son propre enfant. Le criminel est l'enfant du juge. Au début d'Osée, chapitre 11, Dieu dit à Israël, « C'est moi qui ai guidé vos premiers pas. » Je ne sais pas si tu as jamais guidé les premiers pas d'un enfant, mais c'est un moment très fort dans la vie d'un parent, d'un père. Et voilà pourquoi ma fille est là. Ça, c'est en fait le jour de ses premiers pas. Et elle était très fière. Et nous aussi. Et Dieu dit qu'il avait guidé les premiers pas de son peuple. Et pris Israël comme un fils bien-aimé qui, ayant grandi, avait tourné son dos sur ses parents. Alors même plus profond qu'une offense personnelle contre Dieu, leur péché était l'offense personnelle d'un enfant bien-aimé contre son père. Et il y a un type de colère juste qui suit ce type de rébellion et offense. Donc le péché provoque la colère de Dieu parce que c'est une attaque personnelle contre lui, le père. Mais il y a une autre raison aussi. Parce que le péché est également une attaque contre le reste de son peuple. C'est une attaque contre ses autres enfants. Et c'est une attaque contre le pécheur lui-même. Donc le deuxième point là, la colère de Dieu à cause d'une attaque contre ses enfants. Selon Deutéronome chapitre 4, Matthieu chapitre 5 et d'autres passages, la loi est donnée pour le bien du peuple. Suivre la loi et vivre selon le caractère de Dieu lui-même, éternellement bon. C'est s'aligner avec lui et sa création et trouver la vie abondante. Et le péché détruit tout cela. Il détruit pour le pécheur et pour la communauté. Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes condamnent Israël pour son idolâtrie, qui cache Dieu du monde au lieu de le lui montrer. Et il la condamne également pour sa manque de compassion et de justice les uns pour les autres. Donc revenons alors à notre image de jugement, qui est maintenant l'image d'un fils aimé mais rebelle devant son père, un père qui agit selon son caractère en tant que père. Et ajoutons à cela le fait que les victimes des crimes sont les autres enfants de la maison et le criminel lui-même. C'est comme si ce fils, dans sa rébellion, avait fait brûler la maison de son père avec lui-même et les autres enfants dedans, ses propres frères et sœurs. Et ils ont survécu, peut-être, mais ils sont grièvement blessés et souffrants. Et maintenant,
ce fils reçoit jugement pour le mal qu'il a fait aux autres et à lui-même. Et un père peut bien s'imaginer la colère qu'il ressentirait face à une telle situation. Voilà la gravité de notre scène de jugement. La loi enfreinte n'est pas une loi impersonnelle, mais le caractère du père. Une loi qui aurait pu amener toute la famille à la vie abondante. Notre péché est un péché contre le caractère de Dieu et contre les uns et les autres, parce que notre péché détruit le monde comme il aurait pu être. Et nous sommes coupables devant le Père pour cette destruction. Cela le met en colère, justement parce qu'il nous aime, parce que les dégâts que nous avons faits blessent les uns les autres, et parce que le mal dans toutes ses formes est une attaque contre Dieu lui-même. Et donc quand Jésus, à la croix, quand Jésus a pris la place du peuple de Dieu sur la croix, il reçoit cette colère. Cette colère est versée sur lui. Mais c'est qui ce Jésus dans notre illustration de jugement? C'est qui? Un autre fils, peut-être? On reviendra à cette question pour le point final. Mais pour le moment, passons à la deuxième partie de notre discussion sur les émotions de Dieu vis-à-vis... Qu'est-ce qui se passe, hein? Voilà. Deuxième aspect, sa souffrance. Ayant vu que le péché est un rejet personnel de Dieu et une attaque par ses enfants contre lui et ses autres enfants et contre soi-même, c'est facile de comprendre qu'un père souffre dans cette situation, même en même temps qu'il est en colère. Si tu aimes quelqu'un, comme Dieu nous aime, et si cette personne te rejette injustement et cruellement, au point où tu sois en colère contre elle, peux-tu faire autrement que de souffrir en même temps? Que votre relation soit arrivée à ce point-là? Imagine-toi encore cette image de guider les premiers pas d'un enfant, de guider le pas de ton propre enfant. Ses petites mains dans les tiennes, lui faisant confiance en toi pour ton aide et ton amour. Et il fait pareil maintes fois dans la vie, se tournant vers toi pour ton aide et ton amour, jour après jour. Et puis, il se tourne le dos sur toi et sur la famille, et il détruit la famille avec sa rébellion. Avec ta colère, la souffrance que tu ressentirais sera bouleversante. Je vous donne un exemple personnel, mais beaucoup moins grave que tout cela. Ma fille est née, elle a 4 ans, et je l'aime avec une folie qui m'étonne, même moi. Mais elle est pécheur, comme nous tous, et elle sait. Et de temps en temps, elle décide de ne pas faire ce que j'ai demandé. Et quand j'insiste, elle pique sa crise et refuse de bouger. Elle crie, « Non, 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 je ne vais pas !» Mais en anglais, « No, 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 I'm not going !» Et ce type de choses me met en colère. Et je ne la frappe pas, je ne crie pas, mais je suis en colère. Et c'est une colère juste. Et si elle continue à crier contre moi comme ça, la règle est qu'elle reste seule dans sa chambre jusqu'au moment où elle s'arrête. Et quand cela arrive, je suis en colère parce qu'elle détruit la paix de la famille, elle fait pleurer sa sœur, et parce que ma fille, si bien aimée, se tourne contre moi. Et ça me blesse. Et à cause de toutes ces choses, mélangées avec la colère, il y a également de la souffrance. Souffrance que ma famille est dans cet état. Souffrance que ma relation avec ma fille est, au moins pour le moment, brisée. Je n'aime pas les jours qui sont comme ça. Les jours où elle est dans sa chambre et moi je suis quelque part sans elle. J'aime ma fille. Et je ne veux pas être séparé d'elle comme cela. Mais je n'ai pas de choix. Et je souffre jusqu'au moment où elle vient à moi et me dit, papa, je suis désolé. Mais Dieu, le Dieu de l'univers, peut-on dire qu'il souffre comme un père humain ou une mère humaine. Regardons le reste du chapitre d'Osée 11. Osée 11. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. D'autres l'ont appelé, et il s'est éloigné à cause d'eux. C'est au Baal qu'il sacrifie, aux idoles taillées qu'il offre de l'encens. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Ephraïm, et qui l'ai porté dans mes bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Puisqu'ils ont refusé de revenir à moi, ils ne retourneront pas en Égypte. Ce sera l'Assyrie qui régnera sur eux. Le glaive va s'abattre sur leur cité, où il mettra en pièces les barres de leurs portes, et il dévorera leurs habitants à cause de leur stratagème. Mon peuple est décidé à me tourner le dos. On les appelle à regarder vers le Très-Haut, mais jamais aucun d'eux ne daigne élever le regard. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Ephraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma ou te rendre semblable à Tseboïm? Mon cœur est tout bouleversé. Je suis tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm, parce que moi je suis Dieu. Je ne suis pas un homme, et je suis saint. Moi qui suis au milieu de vous, je ne viendrai pas animé de colère. Dieu souffre à cause du péché de son peuple, parce qu'il s'éloigne de lui. Et regardez encore verset 8. Verset 8. Mon cœur est tout bouleversé. Je suis ému de pitié. As-tu jamais imaginé que Dieu peut être bouleversé à cause de toi, ému de pitié? Il souffre comme un parent qui est en train de perdre son enfant au mal, ou comme un mari qui perd sa femme à un autre amant. Il souffre en même temps qu'il est en colère, et il n'y a aucune contradiction entre ces deux sentiments. Il souffre pour les mêmes raisons qu'il est en colère, parce que c'est une perte personnelle pour lui d'être séparé de ses enfants, et parce que c'est une perte douloureuse pour eux d'être séparé de lui. Une perte et une douleur pour lesquelles il est plein de compassion et de sympathie, selon ces versets. Et alors, au moment de la croix, le Père a souffert. Non pas parce qu'il a ressenti la douleur de la croix, de la crucifixion, qui était la douleur du Fils, mais parce qu'il a ressenti la douleur d'un Père qui voyait la souffrance de son Fils et de son peuple, et qui était séparé d'eux. Il a souffert d'être repoussé par un enfant tellement aimé, repoussé par le péché que le Fils avait pris sur lui-même. Et le Père sûrement a souffert à voir la souffrance du Fils, comme il a toujours souffert de compassion pour la douleur de son peuple. Pour le Père, alors, la croix était le moment ultime de sa rencontre avec le péché de son peuple. Et c'était donc le moment ultime de sa colère et de sa souffrance. Et pour notre point final, on va considérer comment c'était un moment qu'il avait toujours en vue depuis le commencement du monde. En Éphésiens 3, on lit les paroles de Paul. Vous pouvez écouter si vous voulez ou lire Éphésiens chapitre 3 verset 8. Oui, c'est moi le plus petit de tout ce qui lui appartient que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, l'autorité, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité, qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ce plan a été fixé par Dieu de toute éternité. Et ce fait se voit également dans les autres passages d'aujourd'hui. En Ézéchiel 5, Dieu dit qu'il va agir selon sa colère comme jamais avant et qu'il ne le refera jamais. Parce qu'à ce moment-là, il a déjà en vue la croix et le pardon qu'elle accomplira pour son peuple. Et en Osée, on lit même plus clairement, malgré le fait qu'il a déjà détruit Éphraïm, une fois, il ne le fera pas encore. Et pourquoi? Il dit parce qu'il n'est pas homme. Il n'est pas un homme. S'il était homme, lui et son peuple, ils seraient prisonniers ensemble d'un cycle de péché et de jugement. Mais il n'est pas un homme. Il est Dieu. Et même avant que l'humanité avait péché, il avait déjà conçu la solution. Il avait déjà la croix en vue. Où sa colère et sa souffrance se tourneraient complètement contre lui-même. Où il, à la croix, il absorberait le prix de notre dette en lui-même. Le fait que Dieu ait tout cela en vue depuis toute l'éternité signifie trois choses importantes pour nous. Et on finira avec ces trois constats. Un constat par rapport à sa souffrance, un par rapport à sa colère, et un par rapport à sa gloire. Pour sa souffrance, Dieu savait d'avance qu'il allait devoir souffrir de notre péché. Et cela nous dit qu'il a pris cette souffrance volontairement et qu'il n'était pas forcé ni obligé. Il n'était pas trop faible pour l'éviter. Il n'avait pas fait une erreur de calcul et sa souffrance ne l'a pas maîtrisé. Il était bouleversé, oui, ému dans son cœur. Oui, mais c'était une souffrance qu'il a acceptée volontairement comme le prix de l'amour pour un peuple libre. Chaque parent sait le moment que son enfant est né, qu'un jour il va partir. Il va grandir, il va quitter la maison de son père et sa mère et ils en seront bouleversés. Chaque femme, chaque mari sait qu'un jour il ou elle sera séparé de l'autre. Ils savent qu'ils vont mourir et ils vont en souffrir énormément. Mais ils entrent dans la relation tout de même, sachant tout cela, mais sachant aussi que l'amour vaut la peine. Le Père savait bien ce qu'il attendait et ce qui attendait le Fils quand ils avaient créé l'humanité. Mais ils ont fait le choix ensemble de nous créer quand même. Ils ont fait le choix ensemble. N'oublions jamais cela. Ni l'un ni l'autre étaient surpris. Et avec l'esprit, ils ont décidé tout de même de créer l'homme et la femme en leur image. Une image qui aurait besoin de la rédemption. Depuis la création du monde, Dieu a bien su que la croix venait. Il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris par le péché de son peuple, ni par la nécessité de les sauver. La croix n'était pas un plan B. C'était le plan A, le plan parfait pour un monde créé par un Dieu prêt à se donner pour son peuple et pour sa création. Prêt à souffrir pour sa création et avec sa création. Et par rapport à sa colère, tout cela veut dire qu'il n'y avait jamais un moment où Dieu était en colère avec son peuple, où il n'était pas prêt également à souffrir pour eux. Il a toujours eu les clous dans sa poche. Toujours. Depuis le début, il a eu les clous dans sa poche. Le Père et le Fils les avaient, les deux. En cela, le Père et le Fils, ils sont comme des parents qui décident ensemble comment restaurer leur famille. Bien sûr, dans la Bible, le Fils n'est jamais décrit dans ces termes, comme la femme du Père. Mais nous pouvons voir la relation entre eux comme celle de deux parents qui conçoivent un plan pour sauver leur famille, qui travaillent ensemble pour le restaurer. Ni l'un ni l'autre hésite. Dieu le Père ne dit pas au Fils, « Bien, sauve-les si tu veux. » Et il ne dit non plus, « Sauve-les parce que je te l'ordonne. » Les deux disent ensemble, « Moi, leur Dieu, je vais me sacrifier pour mes enfants, volontairement, avec un amour ardent, depuis la création du monde. » Quel importe tout cela? L'importe, c'est que c'est absolument impossible d'imaginer Dieu comme un Dieu qui crée un peuple qui peut le mettre en colère sans avoir l'intention de finalement retourner cette colère contre lui-même. La colère de Dieu était toujours destinée à tomber sur lui-même. Et comme le Fils est Dieu également, autant que le Père, il est également impossible de concevoir un Dieu qui enverrait une autre personne, quelqu'un d'innocent, mourir pour son peuple coupable. Ce n'est pas un cas de maltraitance d'un enfant, parce qu'il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il est allé lui-même. En Jésus, Dieu est venu lui-même souffrir et mourir. Ou comme la citation de John Stott, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Dieu satisfait Dieu. L'amour de Dieu satisfait la colère de Dieu. Et pour nous, qu'est-ce que ça change vraiment dans notre vie? Qu'est-ce que ça change? Que cela change-t-il? Si Dieu a nous créé avec l'intention du début de se donner pour nous, pour moi, ça change tout. Ça change tout, parce que ça veut dire que Dieu est digne de notre gloire. Dieu est digne de notre amour. Ça veut dire qu'il est complètement bon, sans question, sans tâche, sans ambivalence. Dieu est un Dieu digne de gloire. Et ça change ma vie. Et ça changera ta vie, et ça changera la vie de tous ceux qui l'apprennent. C'est une gloire belle et noble. Vous n'avez aucune raison de ne pas vouloir partager cette histoire avec le monde. Ce Dieu qui est digne de notre amour et notre et le gloire. S'il était un Dieu qui maltraitait son Fils, alors oui. S'il était un juge sans le pouvoir d'agir avec grâce devant la loi, oui. S'il était un Dieu qui protégeait sa petite gloire comme un roi mesquin du Moyen-Âge, oui, on aura honte. Mais il n'est pas. Il est un parent, un époux, un roi plein d'amour, un Dieu qui a des émotions profondes pour ses enfants et qui se soucie pour le bien et la bonté du monde qu'il a créé. À la croix, complètement conscient de ce qu'il faisait, il a engagé avec amour sa personne entière, le Père et le Fils, pour restaurer cette bonté et racheter son peuple, tout dans un seul acte de beauté et de sacrifice. C'est une histoire de gloire que nous pouvons être fiers d'annoncer au monde. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton Fils et pour qui tu es. Nous te remercions pour la croix et pour la gloire que nous pouvons annoncer au monde, sans honte, sans timidité, mais avec tout l'amour que nous avons pour toi. Au nom de Jésus. Amen. D'accord. S'il reste du temps, je ne sais pas.
Ouais, s'il reste un tout petit peu de temps pour des questions. Par contre, très bien que l'équipe de mise de table y aille. Est-ce que les gens concernés ça ici peuvent être en ministère et... Non, mais si. Très bien. Donc, si vous pouvez aller.